du jour au lendemain avec Jean-Pierre Vernant qui publie deux livres, La traversée des frontières aux éditions du Seuil et Ulysse suivi de Persée chez Bayard. Il m'arrive d'effacer les frontières entre les âges de la vie. Il me semble que ce n'est pas hier soir, Jean-Pierre Vernant, que vous êtes mis à l'étude de la Grèce.
Non, pas hier soir, mais...
Presque.
Pas non plus. À l'aube de mon existence, parce que j'ai commencé à m'occuper de la Grèce de façon, comment dirais-je, sérieuse, comme ma préoccupation plus, d'une certaine façon, comme ma religion. Je me suis plongé dans la Grèce seulement quand je suis entré à la recherche scientifique en 1948, quand je n'étais plus un jeune homme. Et là, de 48 à 58, je suis à la recherche scientifique après avoir été professeur de philosophie, puisque c'est ma spécialité, à Toulouse dans les années 40, jusqu'au moment où on m'a annoncé que j'allais être exclu de l'enseignement. Ensuite, j'ai été, après la guerre, j'ai repris mon métier, même si on m'a demandé à ce moment-là de rester dans l'armée, mais je considérais d'abord que je n'ai rien d'un militaire, que je ne suis pas fait pour être un soldat, sauf circonstances exceptionnelles, et que par conséquent, cette parenthèse qui avait été pour beaucoup de mes amis, moi, la lutte contre l'Allemagne, on la fermait et on reprenait chacun notre métier. J'ai donc été à ce moment-là nommé professeur à Paris, au lycée Jacques de Cour, et j'y ai enseigné de 46 en 48. J'ai donc 34 ans déjà, je ne me trompe pas, oui, 34 ans, lorsque, à la demande de ceux qui s'occupent un peu de moi, mes deux maîtres, Meyerson, la psychologie historique, Louis Germet, l'antiquité grecque, me disent, Jean-Pierre, il faut maintenant ne pas se contenter d'enseigner la philosophie aux jeunes garçons, il faut vous y mettre. J'ai donc, mais je n'avais rien, j'avais pas écrit une ligne scientifique, j'avais écrit des articles dans Action, l'hebdomadaire auquel j'avais participé de 46 à 48. J'ai donc été trouvé le directeur de la recherche, qui était à ce moment-là Jamati, type charmant.
Georges Jamati.
Oui, Jamati, qui était à la fois critique d'art, poète, et directeur de la recherche scientifique, qui m'a reçu avec une bonne grâce complète. Je pense que Jamati avait été lui-même résistant. Il m'a dit, alors je lui ai dit, écoutez, je voudrais entrer au CNRS, j'ai des projets, mais je n'ai rien fait. Et il m'a dit avec beaucoup de tact, bon écoutez, Vernant, vous n'avez rien fait, pendant que vous faisiez ce que vous faisiez, d'autres qui avaient été comme vous, agrégés dans les années, à la fin des années 30, j'ai été agrégé en 37, ils ont écrit leur thèse, pendant ce temps-là vous faisiez autre chose. Vous avez assez donné, et maintenant vous entrez à la recherche. Je vous en fiche mon billet, avec ou sans dossier. Et je suis donc resté à la recherche jusqu'en 48, où je n'ai rien fait d'autre. Et j'ai eu comme seul horizon, comme seul souci, de me faire le plus grec possible. J'allais à la BN, avec Meyerson, on avait nos places réservées. Tous les jours, je me plongeais dans les textes grecs, je m'imbibais. Et en 58, 10 ans après, j'ai été nommé à l'école des hautes études, en sciences, à la 4e section, celle que Braudel et Lucien Febvre avaient créée. Et là, alors, commence, disons, en même temps, une carrière d'enseignant dans ce domaine, puisque je fais des séminaires, et que ce qui va aboutir à la création du Centre de recherche comparé sur les sociétés anciennes, que j'ai créé dans les années 60, au début, et qui prolongeait des études comparatives que toute une série de chercheurs dans les différents domaines, les indianistes Botero et Elena Cassin pour le monde babylonien, Yoyot pour l'Égypte, Godelier pour l'Afrique, beaucoup d'autres encore, Brisson pour Rome, nous avions décidé, nous avions compris, nous étions tous, disons, d'inspiration marxiste, mais avec le sentiment aussi très fort chez chacun de nous, qu'il y avait des domaines où ça ne collait pas bien, en particulier pour les sociétés archaïques ou pour les cultures autres que la nôtre. Et donc nous avions décidé de mettre en commun le travail que nous avions fait chacun dans notre secteur et de mettre au programme chaque année de façon informelle, non institutionnelle, le problème, la guerre, le pouvoir, la terre, l'économie. Chacun de nous faisait un exposé très rapide sur les problèmes que lui paraissait poser la civilisation dont il était un spécialiste. Et ensuite, chacun faisait de même. Et par conséquent, non seulement on apprenait ce qu'on ne savait pas sur les autres civilisations, mais on apprenait sur sa propre civilisation par la confrontation avec celle des autres, qu'il s'agisse de la guerre ou du pouvoir ou de la divination ou de toute autre chose, les traits particuliers de notre domaine, qui nous paraissaient naturels, tout d'un coup faisaient problème par le fait qu'on ne les retrouvait pas de la même façon ou pas du tout dans d'autres sociétés. Et c'est ce comparatisme qu'en principe, avec d'autres hellénistes, à partir des années 63-64, Vidal Naquet, Détienne, je cite ces deux-là, Nicole Laureau, plus tard, Françoise Fontizy, Sarag, Hartog, Schnapp, et beaucoup d'autres que je ne veux pas vous embêter avec ça. Nous avons formé une espèce de petite collectivité de chercheurs. J'ai dit souvent, et je crois que c'est vrai, que tout seul, j'aurais rien pu faire. Rien, je ne dis pas découvrir, parce que j'ai découvert quelque chose douteux, mais rien écrire. Si je n'avais pas, de même que je pensais, réfléchissais par comparatisme, pensais, réfléchissais avec d'autres du même domaine que moi, mais qui étaient différents dans le regard qu'ils portaient sur le monde ancien.
Mais pourquoi vous, Jean-Pierre Vernant, vous avez choisi la Grèce et au point de devenir grec, comme vous le dites dans l'un des textes de la traversée des frontières, de vous faire grec au-dedans de vous?
Oui. Pourquoi? Parce que ça, c'est à cause de mon maître Meyerson. C'est l'idée qu'il n'y a pas un homme universel qui est toujours le même, que depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, il y a une histoire de l'homme intérieur, une histoire de la perception, de la mémoire, de la volonté, de la personne, une histoire des sentiments, une histoire de l'amour, une histoire de la relation sociale, une histoire de ce que nous appelons le travail, des activités laborieuses, et que tout ça, par conséquent, implique, pour comprendre la Grèce, qu'on essaye d'entrer non seulement dans les institutions, dans les textes, dans les documents religieux, mais qu'on se pose la question, mais comment étaient fabriqués les hommes qui à la fois ont créé cette civilisation et qui ont été modelés par cette civilisation, qui ont été là à la fois acteurs et agis par rapport au domaine de leur culture. Et ça, c'est mon premier livre, enfin non, le deuxième, qui s'appelle « Mythes et pensées chez les Grecs, études de psychologie historique », et où je prends une série de catégories psychologiques pour essayer de montrer qu'elles n'étaient pas exactement les mêmes chez les Grecs et chez nous. Il y a une fabrication de l'homme à travers ses œuvres et à travers les cultures dont il est à la fois l'acteur et le produit.
Vous avez rappelé un titre, je vais en donner d'autres, de livres que vous avez publiés et qui montrent que l'essentiel de votre travail est consacré à la Grèce antique. je vais rappeler l'univers, les dieux, les hommes, récit grec des origines, la mort dans les yeux, figure de l'autre en Grèce ancienne, entre mythe et politique, dont il y a un livre qui a été publié au Seuil en 96, et dont celui qui paraît aujourd'hui, La traversée des frontières, est en quelque sorte la suite, puisque ce nouveau livre est sous-titré « Entre mythe et politique 2 ». Et puis, avant d'aller plus loin, il faut rappeler, et on le sait bien, que pendant la dernière guerre, vous avez été un grand résistant. Et c'est l'un des thèmes de ce livre, La traversée des frontières, où vous tentez de répondre à une question qu'on vous a posée dans un débat, qu'on vous a peut-être souvent posée, et qui est celle de savoir s'il y a un lien entre votre lecture de l'épopée homérique et votre action dans la résistance militaire.
Oui, c'est en effet... Écoutez, pour vous faire des confidences, ce livre, qui est mon dernier livre, il y a un certain paradoxe, puisque paraissant en même temps, ce livre sur Ulysse et Persée...
Alors ça, c'était des petites conférences à l'origine.
Ça, c'était des conférences à faire pour les enfants.
Au théâtre de Montreuil.
Au théâtre de Montreuil. Je pense que j'ai dû à peu près inaugurer cette série avec mon Ulysse. C'était une expérience très amusante qui me rappelait l'expérience qui avait justifié le livre qui s'appelle « L'univers, les dieux, les hommes, récit grec des origines » et où je retraçais de façon orale ce que je racontais à mon petit-fils quand il avait 8 ans tous les soirs et qu'il était en vacances avec moi. Alors d'un côté, des livres pour enfants et de l'autre côté, le livre d'un vieux bonhomme au terme de sa vie qui se retourne un peu sur son passé et qui essaye de porter sur lui un regard, comment objectif, ça serait bien prétentieux, mais un regard, disons, distancié.
Mais dans ce petit livre, Ulysse, vous revenez aussi sur votre passé, puisque vous racontez comment tout a commencé dans les années 20, au lycée Carnot, quand vous étiez en seconde ou en première, et qu'on vous a appris à traduire l'Odyssée, et en particulier le chant où il y a Nausicaa.
Oui. Ben, c'est certain que pour un jeune garçon, à cette époque, comme vous le savez bien, les études classiques étaient les reines de l'enseignement secondaire. Les gens qui étaient pas trop mauvais, pas trop bêtes, on les mettait obligatoirement en ce qu'on appelait la classe A, latin en sixième, grec en quatrième, et en même temps le même programme de sciences que les sections de sciences. Alors pour un gosse qui est en seconde ou en première, ce passage de la rencontre d'Ulysse et de Nausicaa, ça ouvrait une fenêtre, sur quoi? Sur un tas de choses, sur le voyage d'Ulysse, sur ce personnage qui essaye de rentrer chez lui, sur ce décalage entre cet homme mûr et cette toute jeune fille qui vient avec l'idée que peut-être ses noces se préparent, elle va laver le linge. Et cette espèce de dialogue, Ulysse est affreux, il est tout nu, il est épuisé, il est plein de sel, il est crasseux. Elle le voit d'abord comme s'il était une sorte de diable sorti des fourrés, et puis il parle. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, est-ce que vous êtes une humaine, une mortelle ou une déesse? Vous êtes une déesse, c'est Artémis. Je n'ai jamais rien vu de tel, sauf peut-être à Délos, un jeune palmier que j'ai vu se dressant tout haut, svelte, jusque vers le ciel. Je me souviens encore aujourd'hui cette espèce de choc que j'ai reçu. Alors, elle lui dit, bah, écoute, tu es affreux à voir, mais tu parles bien. Elle le fait laver et l'Odyssée continue. Mais ça, cette espèce de contact, j'ai dû écrire même, peut-être, qu'il m'était arrivé bien des fois par la suite, regardant des jeunes filles toutes jeunes, 15-16 ans, très belles, de les voir avec l'œil d'Ulysse et de voir en elles comme un jeune palmier qui, tout svelte, se hisse jusque vers le ciel.
Et aujourd'hui, vous ne les voyez plus comme ça, les jeunes filles?
Aujourd'hui, je les vois encore comme ça, mais avec, ce n'est plus l'œil d'Ulysse, c'est l'œil d'un vieux monsieur, retiré des affaires, et en particulier des affaires amoureuses.
Revenons aux affaires sérieuses, alors Jean-Pierre Vernant, la Grèce et la Résistance, c'est François Hartog, l'historien, qui vous a posé cette question de savoir si en écrivant sur la belle mort chez les Grecs, vous n'aviez pas par derrière la tête votre expérience dans la Résistance.
Mon expérience, cette tranche de vie-là, quand il m'a posé la question, je le dis, je l'écris, j'ai été un peu estomaqué, parce que quand je vous ai dit qu'à partir de 48, de mon entrée à la recherche, mon horizon, c'est la recherche. C'est la recherche avec l'idée que je fais une recherche totalement désintéressée et que d'une certaine façon, j'entre dans un autre domaine d'existence. Meyerson m'avait dit, et là je m'en souviens comme s'il était encore là, il m'avait dit, Jean-Pierre, n'oubliez jamais que quand on entre à la recherche, c'est comme quand on entre en religion. Sauf que c'est vous qui êtes le patron. À ce moment-là, j'étais redevenu membre du PC. Je ne l'étais plus en 39. J'étais revenu à cause des affaires coloniales. Et Meyerson, qui lui aussi avait, je crois, pris sa carte à cette époque, pour des raisons analogues, avec le sentiment que ce qui avait été la première moitié du XXe siècle décisif, est-ce que le fascisme triomphera et alors tout est foutu, que dans la seconde moitié, ce qui avait été vrai pour nous en Occident ne l'avait pas été pour ceux qui nous avaient aidé à gagner, tous ces peuples coloniaux, et qu'on entrait dans une autre sphère d'histoire, la libération des peuples coloniaux. Et il m'avait dit à ce moment-là, vous savez, Jean-Pierre, quand vous écrivez un papier, un texte, c'est vous qui l'écrivez, et vous ne devez jamais accepter sur un ordre extérieur, sauf si c'est un conseil de quelqu'un qui travaille et qui vous montre qu'il y a une erreur, vous ne devez jamais accepter qu'on change même une virgule. C'était dans la période 48, je donne Vienne, qui s'ouvrait, et où le parti auquel nous appartenions l'un et l'autre avait eu l'idée, Jdanovienne, de régenter tous les domaines, la peinture, la littérature, la poésie, l'histoire, la philosophie. Mais Meyerson était pour moi un garde-fou radical. C'est vous et seulement vous.
Dans La traversée des frontières, vous revenez, Jean-Pierre Vernant, sur l'histoire et sur les historiens, le rôle des historiens. Vous dites qu'ils n'ont pas pour ambition de faire revivre les événements passés, mais qu'ils travaillent avec la certitude d'obéir à l'exigence de vérité uniquement. Ils n'ont pas d'autres critères que la recherche du vrai.
Oui. C'est vrai, ben c'est comme ça. Je pense pourquoi j'écris ça, parce que Meyerson avait publié, je crois dans le journal de psychologie, dont il était directeur et moi secrétaire de la rédaction, un papier sur, qui devait s'appeler « Le temps, la mémoire, l'histoire », et il montrait comment l'école historienne allemande de la fin du XIXe siècle avait donné au passé comme tel et au rôle de la mémoire un aspect nouveau, à savoir que ça n'était plus les leçons du passé ou, comme Michelet, une espèce d'exaltation peut-être un peu romantique, mais que c'était l'idée que tout événement qui a eu lieu, par le simple fait qu'il a eu lieu, acquiert le statut d'un objet de recherche scientifique. Que le passé comme tel se constitue comme objet de recherche historique. Et bien maintenant, c'est une idée à laquelle tous les historiens adhèrent, sauf qu'ils ne diraient pas qu'il s'agit de savoir comment les choses se sont effectivement passées, on se rend compte que les problèmes sont plus compliqués, que l'histoire est comme une pieuvre avec beaucoup de tentacules. Il y a des histoires économiques, sociales, statistiques, du climat, de tout ce qu'on peut imaginer. Mais l'idée que l'historien considère que son domaine, c'est le passé comme tel, y compris le passé préhumain, pas seulement le passé historique, pas seulement parce qu'il y a la préhistoire, mais parce qu'on essaye de savoir ce qu'il y avait avant la préhistoire, c'est-à-dire comment le monde s'est constitué à partir même du Big Bang. C'est-à-dire que vraiment, l'homme moderne a construit, à travers la recherche historique, l'idée que les événements passés ont en tant que passé une consistance particulière. Donc, mémoire historienne, qui est une mémoire à part, qui emploie ils écrivent, et par conséquent, ils font de la narration. Et bien entendu, tels que les événements ont été vécus, on peut pas les faire revivre sur le papier par l'écriture. Et c'est ce que beaucoup de résistants, mes amis, lors de colloques qui ont eu lieu à Toulouse ou ailleurs, ont du mal à engager. Quand ils voient les historiens raconter ce qui s'est passé et disserter dessus, ils disent mais c'est pas ça que j'ai vu, moi.
Donc il y aurait plusieurs mémoires, hein. Il y aurait mémoire et mémoire.
La mémoire individuelle de chacun, qui est aussi une construction relativement... Enfin, le point de départ, je crois, c'est Augustin. C'est l'idée que auparavant, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ce qu'il y a dans l'Antiquité classique, c'est-à-dire un art de mémoire, une technique qui permette à des gens de tout savoir dans différents domaines et qui correspond à la volonté encyclopédique de la bibliothèque d'Alexandrie, réunir tout le savoir humain et le mettre à la disposition de chacun. Et avec saint Augustin, à la suite de beaucoup d'autres changements, il y a l'idée que la mémoire, c'est pas une technique qu'on peut apprendre, que la mémoire, c'est le fait que quand on regarde en soi-même, on retrouve un passé qui est chargé à l'infini de souvenirs, que c'est comme une espèce d'immense palais où sont disposés des centaines de milliers de livres. C'est-à-dire que cette mémoire est à la fois nous-mêmes, le sujet, et en même temps, et la présence en nous, en Dieu, par le fait qu'elle est infinie, qu'elle est d'une richesse inépuisable.
Donc la mémoire
historique. Et puis il y a la mémoire collective, c'est-à-dire la façon dont chaque groupe se constitue un passé par les procédures diverses, les monuments, les célébrations, les histoires qu'on raconte, c'est-à-dire justifie le présent et le statut présent d'un groupe en fabriquant un passé toujours plus ou moins arrangé.
Mais cette mémoire historique dont vous parliez, c'est elle qui se place sous le signe de la vérité.
Oui.
C'est là que les difficultés commencent. Comment ? Sur quoi s'appuyer ? Alors, vous revenez sur le problème des témoins, des archives, et vous citez des documents qui vous ont amené à réfléchir sur les mésaventures et les déboires de la mémoire historienne.
Très exactement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce livre a été publié, comme je vous le disais, considérait que j'avais dit et écrit ce que j'avais à raconter, que bon, c'était terminé. Et il s'est trouvé que j'ai trouvé ces deux lettres qui m'ont été envoyées. La première, je ne sais pas par qui, parce que je n'ai jamais identifié celui qui me l'avait envoyé. La deuxième, signée Pujol, qui devait être de ce qu'on appelle un des garçons du proviseur, le type qui nous amenait tous les matins, quand on faisait cours, le grand cahier sur lequel on écrivait les noms des absents et sur lequel le proviseur demandait, par l'intermédiaire du professeur qui le lisait, que les élèves prennent connaissance d'une note. Et ce Pujol me prévient de ce qu'il a entendu, l'autre me prévient que à Vichy, l'inspecteur général de philosophie Bridoux, après avoir lu des notes confidentielles me concernant, avait obtenu du ministre de l'Éducation nationale, de ce moment-là, un collaborateur notoire, que je sois exclu de l'enseignement, mais que la nouvelle ne m'en avait pas été officiellement communiquée parce que c'était la milice et la section spécialisée de la Légion française des combattants qui était chargée de ce travail. C'est-à-dire, c'était une lettre qui me disait, attention, fichez le camp, vous allez avoir une visite. Ce que je fis, j'avais jusque-là une vie double, vraiment relevant de la schizophrénie, j'étais professeur, et en même temps, j'étais, dès sa fondation, et même un peu avant, m'occupais des questions paralimitaires du mouvement Libération, mais après novembre 42, quand les Allemands occupent la zone dite libre, on crée l'armée secrète en réunissant tous les groupes paramilitaires de combat de francs-tireurs de Libération, et aussi les groupes unis du Parti Socialiste, ou de Libérés et Fédérés, et on crée l'armée secrète. Et il se trouve qu'on me demande d'en prendre la direction, ce que j'ai fait pendant toute cette période. Et quand il y a eu la création des forces françaises de l'intérieur, qui unifiait non seulement l'armée secrète, mais aussi les FTP, et aussi ce qu'on appelait l'ORA, Organisation de la Résistance dans l'armée, qui était dans l'armée d'armistice que les Allemands avaient accordé à Vichy pour maintenir l'ordre, la fraction qui, après l'occupation de la zone dite libre, était passée à la résistance. Et tout ça a constitué l'état-major départemental, où j'avais un représentant de l'armée secrète, un représentant des FTP et un représentant de l'ORA, qui était un commandant breveté d'état-major, le commandant Dubier, que j'avais à mes côtés, qui m'a beaucoup aidé, qui est mort maintenant, et qui, quand il était au Vietnam, m'a écrit une lettre, que je suis pas prêt d'oublier, où il me disait, je m'appelais Berthier à ce moment-là, « Mon cher Berthier, je vous écris cette lettre, il était en opération, pour vous dire que dans ma carrière militaire, professionnelle, je n'ai jamais été aussi heureux et aussi en paix avec moi-même que quand j'étais avec vous. » Donc, nous avions réalisé cette unité.
Dans la traversée des frontières, Jean-Pierre Vernant, vous êtes amené à revenir sur l'affaire Aubrac. Oui. Et vous montrez que c'est précisément la question des frontières qui est au cœur de cette affaire. Il y a une ligne jaune qui a été franchie, qui délimite le lieu d'où parle l'historien. Et s'est trouvée franchie également la frontière entre passé et présent.
Je m'explique, l'affaire Aubrac, elle me tient à cœur, elle me tenait à cœur, parce que j'avais connu Lucie Aubrac au début des années 30, quand elle préparait la grecque d'histoire, et moi la grecque de philo. Nous étions proches, nous étions amis, nous étions liés aussi par un antifascisme commun. Et c'est par l'intermédiaire de mon frère, à qui Cavaillès avait confié une valise qu'il devait porter à Lyon, que je pense à la fin des années 41, puisque mon frère était professeur à Clermont avec Cavaillès, 40-41, il est allé à Lyon, il a retrouvé par hasard Lucie Aubrac, il avait un mot de passe. Cavaillès lui avait dit, vous irez à Lyon avec une valise qu'il devait porter, vous montrez à tel étage, à telle adresse, on vous ouvrira et vous direz, la Seine coule à Paris. Et on doit vous répondre, sous le pont Mirabeau ou sous le pont je sais pas quoi. Et alors si la réponse est bien celle-là, vous êtes, ça va. Si c'est pas ça qu'on vous répond, vous redescendez. Il va, il sonne, on lui ouvre un type, c'était Raymond Aubrac qu'il ne connaissait pas, il dit cette phrase avec le sentiment que ça va provoquer une catastrophe et il entend dans le fond, dans la cuisine, une voix féminine qu'il reconnaît et qui lui dit « Sous le pont Mirabeau !» Et c'était Lucie. Naturellement, Lucie lui dit « Et ton frère, qu'est-ce qu'il fait ? Il est à Toulouse. » Et donc, elle est venue, et avec Aubrac, qui avait à ce moment-là la responsabilité des groupes paramilitaires de Libération, j'ai accepté de devenir un résistant dans le secteur dit militaire. Donc, j'étais proche des Aubrac. Et puis, quand il y a eu ce livre de Chauvy sur la légende des Aubrac qui mettait en doute non seulement le coup de main que Lucie avait organisé pour libérer son mari en attaquant le camion qu'il transportait en tuant les occupants allemands qui faisaient le transport, mais également laissant entendre que, après tout, on pouvait se demander si Aubrac n'avait pas une responsabilité directe dans l'arrestation de Moulin. Il y a eu, organisé par Libération, à la demande des Aubrac, une séance, une journée de débat entre historiens et les Aubrac. Et cette journée a mal tourné, c'est-à-dire que tout d'un coup, alors pourquoi j'étais là? Parce que les Aubrac m'avaient demandé d'être présent, comme aussi à Aguillon, qui n'était pas un spécialiste, pas plus que moi, du présent. Moi, évidemment, puisque je m'occupais de la Grèce, mais enfin, j'étais devenu un peu historien, mais on connaissait bien les Aubrac. Et alors, il y avait là, d'un côté, les historiens, qui formaient un bloc hétéroclite, parce que tous les historiens n'étaient pas sur la même longueur. Mais c'était quand même les historiens, avec leur territoire, et je crois que la raison pour laquelle, finalement, des hommes qui affirmaient avoir, à l'égard des Aubrac, des sentiments d'amitié admirative, tout d'un coup sont devenus quasi fous, c'est-à-dire se sont laissés aller à un débordement d'hostilité ouverte et de demandes scandaleuses, puisque ils ont même laissé entendre et soutenu à Lucie Aubrac que c'était à cause d'elle que le père et la mère de Raymond, qui avaient été déportés, qui étaient morts en déportation, avaient été arrêtés. C'est stupéfiant. Alors, je m'interroge, mais comment est-ce possible? Et je crois que c'est possible dans le scénario prévu, c'est-à-dire que un grand journal, quelle que soit son objectivité et ses mérites, n'est pas le lieu où on peut rassembler les historiens comme un corps détenteur de la vérité historique, parce qu'ils sont historiens et qu'ils agissent en tant que techniciens du vrai sur le passé récent. Et puis, deux témoins qui deviennent tout d'un coup des accusés, parce que les historiens font comme si ces témoins, ils ne savent pas ce qui était réellement l'enjeu, etc. Et en plus, tous les problèmes de prestige, de masculin-féminin, de débat à l'intérieur même de la résistance, surgissent comme des spectres à l'arrière-plan de cette séance et font que ce qui a été appelé dans le journal une leçon d'histoire devient la leçon de ce qu'il ne faut pas faire quand on est historien. Et en tout cas, ne pas accepter de régler les problèmes du passé dans un espèce de sur un tréteau de théâtre. La théâtralisation est impossible. L'historien parle d'un lieu qui est le sien, où il a des règles, où il a des obligations et des interdits, et quand il sort de ce lieu, il n'est plus historien, il est comme vous et moi, oui. Il a le droit de détester ou d'aimer, mais pas en tant qu'historien, en tant qu'individu.
De même qu'il y a mémoire et mémoire, il y a raison et raison, et il y a une raison politique.
Bien sûr que oui, il y a les raisons politiques. Il y a aussi cette idée du mécontentement de l'historien quand un des témoins devient, aux yeux du public, le héros, celui qui raconte la vérité historique. Or, la vérité historique, elle n'appartient qu'à eux. Donc, pas de tréteau, faisons que les historiens fassent leur boulot, et surtout, que les historiens, qui ne peuvent pas se passer des témoins, ils le savent bien, même quand le témoin fabule ou se trompe, ce qui arrive très souvent, ils doivent l'aborder de personne à personne et l'aborder avec dans la tête qu'il s'agit à travers cet échange et même dans ce qui vous apparaît comme l'erreur de témoignage de dégager quelque chose, si je peux dire, de neutre et pas du tout de s'engager dans une espèce de bagarre avec le témoin.
La résistance, l'histoire, la Grèce. Retraversons la frontière, Jean-Pierre Vernant, du côté de la Grèce. Elle est présente, évidemment, dans la traversée des frontières. Vous nous racontez plein de choses, et notamment comment vous avez parcouru la Grèce à pied en 1935.
Oui, bien sûr, vous savez, ça se faisait beaucoup. On l'a parcouru, j'étais avec des copains. Mon frère passait la Grèce, il est venu nous rejoindre au Pirée, après qu'il ait été reçu, après l'oral. J'étais là avec le duc Yannick Brune, géologue de la Grèce, on était trois ou quatre, et On se promenait à pied dans la Grèce, sac au dos, et c'était cette Grèce de 35 était une Grèce. Pourquoi est-ce qu'on allait là-bas? Pas du tout par nostalgie de l'antiquité classique. J'avais déclaré que j'irais même pas au Parthénon. Je n'ai pas. J'y étais, j'ai été bouleversé. Mais j'avais, c'est pas pour ça que j'allais en Grèce. J'allais en Grèce, en 35, parce que c'était la dictature, je crois, de Metaxas, et que j'allais voir le peuple grec enchaîné. Ce que j'ai vu, c'est pas tellement le peuple grec enchaîné, c'est cette civilisation paysanne où l'hospitalité, l'accueil de l'étranger, le fait que l'étranger est reçu comme un personnage qui, en venant du dehors et en se déplaçant jusque chez vous, est un don du ciel. Et que par conséquent, ils se disputaient dans les petits villages pour venir emmener chacun de nous. On nous offrait le lit, on nous offrait le coucher, le manger. Cette espèce de chaleur d'accueil à l'égard de ce qui n'est pas soi. Et l'idée que ce qui n'est pas soi, l'étranger, l'hôte, en grec, le mot xénos est à la fois l'hôte, celui qui accueille, et celui qui est accueilli, ce qui implique ce lien entre l'autre et soi-même, que celui-là, l'autre, c'est une bénédiction de le recevoir, c'est un don qui vous est fait, et comment ne pas l'accueillir. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, cette idée que dans l'autre, il y a quelque chose qu'il faut accueillir et qu'on est soi-même seulement dans la mesure. Les psychologues montrent que l'enfant se construit à travers cet continuel échange entre lui-même et l'autre. Mais c'est vrai aussi pour nous. J'ai dit qu'on ne comprenait la Grèce qu'en la comparant. J'ai dit que je n'avais plus pensé, dans la mesure où j'ai pensé quelque chose d'original, que parce qu'il y avait d'autres qui, à côté de moi, pensaient à la fois comme moi et différemment, et quelquefois contre moi. Et c'est pareil pour les civilisations, pour les cultures. Le repli, ce à quoi on assiste aujourd'hui, le refermement sur soi de communautés, de religions, c'est le mal. Ça n'est pas seulement la bêtise, l'absence de cette intelligence critique, mais qui est toujours ouverture vers autre chose. Mais c'est le mal, haïssable.
Il y a un homme politique américain qui parle des forces du mal. Vous ne l'entendez pas de la même manière?
Non, j'entends pas les forces. Je pense que baptiser ce qui est autre force du mal, c'est en se déclarant soi-même le bien, en s'enfermant dans cette tunique du bien, comme si on l'incarnait à soi tout seul, c'est aussi une forme du mal.
Deux livres de Jean-Pierre Vernant, La traversée des frontières, aux éditions du Seuil, et Ulysse, suivi de Persée, chez Bayard.